Merci beaucoup, Jennifer. Donc, je voudrais remercier tout le comité d'organisation de m'avoir proposé de présider cette première table ronde. Première table ronde d'un colloque qui est important, je pense, voilà, dans l'histoire des féminismes et dans l'histoire impériale de la France. Alors, moi, je suis historienne et je préside une table ronde où vont intervenir quatre collègues qui sont littéraires ou sociologues. Je voudrais juste dire que le titre de la table ronde me semble voilà, fort bien choisi. Peut-on parler de féminisme avant le mot ou sans le mot? Et Fatou Sow a déjà posé un certain nombre de questions liées à celle-ci. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais tout de suite donner la parole à Tina Harpin, qui nous propose une communication dont vous avez le titre sur le PowerPoint, donc écrire en tant que noir, quel féminisme dans la fiction des Antilles et de la Guyane. Tina Harpin est maîtresse de conférences en littérature, donc à l'université de Guyane, et donc je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes et je vous ferai passer des petits papiers, voilà, si ça dépasse. Merci.
Merci. Pascal Barthélémy, merci aux organisateurs du colloque. Je suis très heureuse d'être ici pour partager ce moment de réflexion collective. Peut-on parler de féminisme avec ou sans le mot? Ou de quel féminisme parle-t-on dans la fiction des Antilles et de la Guyane? Pour tâcher de répondre à ces questions, je vais vous présenter quatre auteurs d'origine guyanaise et antillaise qui ont publié entre la fin des années 1980 et nos jours. Ces auteurs, et c'est aussi pour cela que je les ai choisis, ont pour point commun de ne pas rejeter le qualificatif de féministe, même si aucune d'elles n'emploie l'expression de féminisme noir. Je voudrais analyser toutefois en quel sens leurs écrits peuvent être rattachés au féminisme ou au féminisme noir, tout en montrant ce qui les distingue. Gisèle Pinault est née en 1956 à Paris, de parents originaires de la Guadeloupe. Elle a grandi dans la capitale et elle a exercé comme infirmière en psychiatrie en région parisienne et en Guadeloupe. En 1995, dans l'ouvrage collectif dirigé par Marie Scondé et Madeleine Cottenay-Hage, Penser la créolité, elle offre un texte intitulé Écrire en tant que noir, qui cite Zola Neale Hurston, plusieurs autres écrivaines noires américaines et antillaises des États-Unis. Mais il ne s'agit pas pour elle de parler de la condition féminine noire, mais plutôt de réclamer le droit à parler de l'expérience des Antillais vivant dans l'Hexagone. Je cite, Contrairement aux écrivains de la créolité, je n'ai pas vécu une enfance sous les tropiques. J'ai connu la cité, ses immeubles gris, la froidir des hivers de France, la neige, les manteaux de laine et l'indicible sentiment d'être exclu, inadapté, déplacé dans cet environnement blanc carré policé. Bien que le lien ici ne soit pas fait entre l'expérience du racisme et la condition de femme, Pinault se dit plus ou moins féministe. En 2003, elle confie à Christiane McQuarrie : « Je suis féministe. Tout au fond de moi, je n'aime pas la domination de l'homme sur cette terre. » En 2007, elle tempère auprès de Valérie Merlin-Lamellé : « Je ne suis pas spécialement féministe. » En 2009, elle dit à Thomas Sespire : « On me dit souvent que les femmes sont très présentes dans mes romans. Je ne suis pas un auteur féministe qui défend uniquement des femmes. Je m'intéresse à toutes les injustices. » Sylviane Vaillabouri est née en 1960 en Guyane. Elle a grandi avec un père guadeloupéen très absent et une mère guyanaise. Et elle a été élevée par la demi-sœur de sa mère en Martinique et en Guyane. Et elle a résidé dans l'Hexagone et en Guyane. Elle revendique la libération de la femme, y compris sexuelle, dans la plupart de ses textes. Et elle rend aussi hommage à sa mère, une ex-soumise, comme elle l'appelle, traumatisée par les épreuves de la vie. Marie-Georges Thébia est née en 1964 en Côte d'Ivoire, de père guyanais et de mère martiniquaise. Elle a grandi dans l'Hexagone avant de revenir vivre en Guyane. Elle se dit sans ambages féministe, dévoile les tabous et les violences subies par les femmes antillo-guyanaises dans les DROM, mais aussi en France. Fabienne Canor est née en 1970 à Orléans, de parents martiniquais, et elle travaille sur les mêmes thèmes. Cette journaliste, réalisatrice et romancière a grandi dans l'Hexagone, a vécu au Bénin et en Martinique, et elle réside désormais aux États-Unis, où elle est Assistant Professor of French and Francophone Studies à Penn State University. Elle dit qu'elle a été féministe sans le savoir, se revendique comme telle, tout en s'interrogeant sur l'héritage de ce mouvement aujourd'hui. Ces auteurs, dont la production n'est pas terminée, n'ont pour la plupart pas lu les féministes noires américaines, anglophones ou francophones, hormis Gisèle Pinault et Fabienne Canor, qui sont toutes deux férues de littérature américaine. La première lit des traductions et la seconde lit dans le texte. Leur fiction ne fait pas théorie, mais contribue au débat féministe d'un point de vue antillais, guyanais, à la fois ancré et déplacé. En ce sens, leur texte permet de penser le féminisme noir tel qu'il peut s'écrire, notamment contre les tabous, parce que c'est sur ce point que je vais m'attarder. Les textes de ces auteurs me semblent remarquables pour leur critique sociale de l'assimilation et du sectarisme, mais aussi et surtout pour leur dénonciation des non-dits qui minent la condition des femmes aux Antilles et en Guyane. Il s'agit de déboulonner les héros. En 1979, Maryse Condé déclarait dans son essai sur la parole des femmes, je cite, « On chercherait vainement à travers les romans des écrivains femmes des Antilles l'écho tapageur de revendications féministes et de la haine du mal perçue comme dominant. Il s'agit beaucoup plus d'une dénonciation subtile de la condition des rapports hommes-femmes, d'une réflexion sur leurs difficultés ou leurs dégradations. Cette affirmation ne paraît désormais plus valable pour décrire les œuvres écrites après les années 1980. Une certaine colère et une haine s'expriment au travers des personnages et les auteurs n'ont pas honte ni peur de se réclamer du tapage des revendications féministes. Elles n'opposent pas non plus féminisme et dénonciation subtile des rapports hommes-femmes aux Antilles et en Guyane. Les écrivaines citées, dont je me permets de souligner que trois d'entre elles sont des filles de militaires, osent condamner les travers des hommes noirs, y compris si ceux-ci sont des héros et paraissent tout à fait respectables. Il s'agit de montrer leur face cachée et parfois odieuse, à l'instar d'autres écrivaines. Je pense à Maryse Condé dans ses autobiographies, par exemple, de la fin des années 90 et des années 2000, ou je pense au premier roman de Chimamanda Ngozi Adichie, Purple Hibiscus. Gisèle Pinault est sans doute celle qui allait le plus loin dans cet effort, parmi les auteurs cités. Sous le voile de la fiction d'abord, puis à travers quelques confidences accordées en entretien, elle a décrit âprement la figure du père, un héros, serviteur de la patrie française, décédé en 2014 et enterré avec les honneurs en présence de la ministre des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, et du secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, Kader Arif. Dans trois de ses textes, Gisèle Pinault dévoile les défauts de ce père tyrannique, brutal et aveuglément francophile. Dans L'exil selon Julia en 1996, elle montre comment sa grand-mère, Manya, avait été condamnée à l'exil par ce père qui croyait ainsi la sauver des mains du grand-père brutal, surnommé le bourreau, lui-même ancien soldat revenu traumatisé de la guerre de 14-18. Le fils se voulait un sauveur mais n'a pas demandé la vie à sa mère. Gisèle Pinault décrit non pas une opération de sauvetage, mais un kidnapping. Par là même, elle dénonce une violence masculine calquée sur le modèle de l'ingérence et de la domination coloniale, son père se croyant autorisé à toutes les manœuvres dans le noble but de sauver sa mère aliénée, restée dans la colonie. La description de la dépression de la grand-mère et l'évocation de sa renaissance lors de son retour en Guadeloupe montrent que le destin et le bonheur des femmes dépendent d'elles-mêmes et de personne d'autre. En 2007, dans Mes quatre femmes, l'écrivaine révèle un peu plus de son histoire familiale en expliquant comment ce père, au retour de la guerre d'Indochine, a ramené une femme indochinoise et deux enfants et les a imposés au reste de la famille dans leur appartement parisien. Gisèle Pinault fait également allusion à un secret de famille concernant sa sœur aînée Lisa et n'en dira pas plus. Marie-Georges Thébia, qui est également fille de militaire, a aussi dénoncé la part cachée de la respectabilité de la bourgeoisie créole. Dans sa nouvelle intitulée « Celles qui attendent », datée de 2016, la narratrice est une épouse à qui son mari a imposé des enfants d'une autre couche. Ce qui est intéressant avec ce personnage, ce sont ses regrets. Elle regrette de n'avoir pas exprimé sa colère. Je cite « J'ai été lâche, préférant une existence de rien, une demi-vie, une vie de résignation, de colère sourde, camouflée. J'ai surtout été happée par la vie, les enfants, leur éducation. J'ai inculqué à mes fils un autre héritage, le respect de la femme, le respect des engagements, afin de rompre avec la malédiction de celles qui attendent. » Le personnage condamne un ordre patriarcal, mais s'autocritique également pour sa passivité. Elle est néanmoins érigée en martyre, car son dévouement maternel est reconnu. Et c'est comme si la fiction faisait prévaloir le lien matrifocal, gage de renouveau et d'équilibre, contre le patriarcat. Cette ambivalence de Marie-Georges Thébia se retrouve dans sa relative fascination pour la figure de la femme forte, la femme d'Ubout, comme on l'appelle, la femme debout, et on l'appelle aussi la femme Jock en Guyane. Il s'agit pourtant de défaire ce mythe dans les écrits des femmes écrivaines des années 80 à nos jours. Si du temps des sœurs Nardal et de Suzanne Césaire, il fallait à tout prix casser la littérature doudouiste et mettre à mort le mythe de la doudou, je renvoie aux travaux de Jacqueline Couty sur ce point, eh bien désormais, c'est le mythe de la femme forte qui pose problème. Les auteurs dénoncent la résignation qui s'est souvent présentée comme une force dans le discours commun antillo-guyanais, très imprégné aussi du poids de la religion. Et elles font apparaître les figures de femmes d'Ubout comme des figures de femmes finalement couchées, des survivantes gravement traumatisées. Elles rappellent ainsi le poids du patriarcat dans la société antillaise et guyanaise et les conséquences de cette domination masculine. Elle montre que ce système de domination coexiste avec la matrifocalité sans que les deux ne s'opposent forcément. Stéphanie Mulot explique que la matrifocalité, depuis longtemps étudiée, n'est pas un mirage caribéen et qu'elle repose, je cite, « sur l'absence ou la disqualification sociale des hommes dans les fonctions paternelles, sur leur présence attendue dans les rôles sexuels hétéronormés et sur la sacralisation sociale des mères qui se disent dévouées pour des enfants qu'elles élèvent parfois sans partenaire stable et avec l'aide d'autres femmes de la parentèle. L'expression des femmes antillaises qui proclament « je suis la mère, je suis le père » semble résumer cette définition. » Fin de citation. Et cette définition est effectivement éclairante, mais il n'en reste pas moins que dans beaucoup de familles antillaises, les pères dominent également, se veulent à la fois père et mère, et effacent à dessein la figure d'autorité maternelle en décidant tout dans la maisonnée, et en reléguant leur épouse au rang de sage-fille aînée subordonnée. Il est même possible que cette violence masculine patriarcale se veuille une réponse aux dynamiques matrifocales. C'est peut-être ce que Stéphanie Mulot propose d'explorer en proposant avec prudence l'expression de patriarcat fissuré. La remise en cause de la femme Jock est un des objectifs des auteurs d'aujourd'hui, mais il n'est pas aisé à atteindre. Le mythe avait comme fonction de compenser la réalité brutale de la vulnérabilité des femmes en supposant en elles une résilience et une grandeur admirables. Que faire sans ce mythe? Comment s'en passer? Marie-Georges Thébia semble faire le choix de le garder pour ce qu'il peut avoir de mobilisateur. La femme Jock est en effet célébrée dans son roman intitulé « La vie bidime » d'Ambrosia Nelson. L'héroïne, une chabine guyanaise débarquée en France dans les années 60, vit toutes sortes d'épreuves liées à sa condition de femme exilée et domestique. Mais elle survit grâce à la solidarité féminine. Le roman, comme pour appuyer la morale de l'histoire, comprend en annexe un recueil de citations sur la femme Jock qui émanent de personnalités féminines guyanaises. Ainsi, la femme Jock peut paraître être un mythe nécessaire aux yeux de beaucoup, même s'il s'agit d'une figure peu enviable, comme on l'a bien compris. Grâce à ce personnage, les romancières nuancent la situation de la femme, condamnent le patriarcat et dévoilent un certain nombre de non-dits. Il s'agit de dénoncer notamment l'inceste, le viol et la violence contre les femmes. Sur ce point, Gisèle Pinault est aussi une pionnière. Dans son ouvrage « Femmes des Antilles, trace et voix », co-signé avec Marie Abraham en 1998, elle donne la parole à des femmes afro-descendantes 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Elle rend aussi hommage à Simone Schwarzbart, dont vous voyez ici l'épigraphe, tirée de son magnifique roman « Pluie et vent sur Télume et Miracle ». Pour dénoncer les violences commises contre les femmes, Gisèle Pinault est une pionnière et dans son ouvrage co-signé avec Marie Abraham en 1998, elle rend hommage à Simone Schwarzbart et elle donne voix à des femmes ordinaires, anonymes, qui témoignent de violences vécues. Voilà, une femme qui s'exprime sur ce qu'elle a vécu comme femme battue. Une femme qui fait part de ce qu'elle a vécu ce qu'elle a subi, qui est un inceste, même si le titre c'est le viol. Et j'ai mis en regard un extrait de Pluie et vent sur Télumé Miracle, qui fait seulement allusion à l'inceste. Mais en fait, dans ce roman, l'inceste est évité parce que Victoire, la mère de Télumé, prend soin de renvoyer son enfant auprès de sa grand-mère. Alors, moins pour la protéger de son amant que pour éviter d'avoir une rivale. Si vous lisez le passage, vous voyez que c'est plutôt cette idée qui apparaît. Et Gisèle Pinault sera la première à s'exprimer et à écrire un roman véritablement sur l'inceste, L'Espérance Macadam en 1995, qui est fortement inspiré par le roman de Toni Morrison, The Bluest Eye, que Gisèle Pinault a lu. Fabienne Kamnor aborde aussi ce sujet dans D'eau douce, en faisant parler l'héroïne Frida, qui révèle, 10 ans après les faits, l'abus subi par son oncle, le compagnon de sa tante. Et la réaction de la mère de Frida est finalement complètement inadaptée. Elle est incapable de l'aider. Elle la précipite dans la douche, après avoir vérifié par un toucher vaginal si elle était encore vierge. Et elle ne sait pas finalement lui venir en aide. Dans ce roman, Fabienne Kamnor critique fortement ce personnage ambigu de la mère, à la fois forte, dans la mesure où elle humilie le père, elle le contrôle, et en même temps faible, puisqu'elle subit aussi ses infidélités. Ce qui est intéressant, c'est que Gisèle Pinault fait l'éloge plutôt de l'espérance, de la solidarité, de la compassion dans ses romans, tandis que Fabienne Kamnor assume une violence beaucoup plus radicale. Elle autorise ses personnages à exprimer une colère et on l'a rattachée à l'influence de Damas et à la poésie finalement canaille de Damas. Plusieurs critiques ont fait le lien entre ces auteurs. La haine est donc affichée dans les romans de Fabienne Kamnor, mais pour formuler un problème dans les rapports entre hommes et femmes afrodescendants. Et Frida se retrouve finalement face à l'extrémisme de son amie féministe Marlène, qui est à la tête du mouvement de libération de la négresse et qui prône le jouir sans entrave. Et elle est aussi face à Eric, qui est le chef des Neg Panthers, qui se réunissent au pipiri pensant pour penser la libération de l'homme noir. Frida est entre ces personnages, avec dans ses bras un amant qu'elle a assassiné, et elle représente finalement cette impasse dans laquelle se retrouvent un certain nombre de femmes noires en quête de solutions pour s'émanciper. Pour conclure, on remarquera que les 4 auteurs étudiés, si elles se disent toutes féministes, ne s'accordent pas forcément à se dire féministe noire, et je pense qu'effectivement Fatousseau a soulevé cette question des dénominations dans sa conférence. Je compte néanmoins poursuivre mon enquête et les interroger sur ce point. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la dénonciation du patriarcat qu'elles opèrent est particulièrement ardue et compliquée parce qu'elle s'inscrit dans une société marquée par les relations matrifocales. J'ajoute également que parmi les 4 auteurs évoqués, Gisèle Pinault et Fabienne Kamnor sont sans doute celles qui tentent le plus de réfléchir aux obstacles à surmonter pour la libération de la femme en tant que noire, dans son écriture, mais aussi dans son désir. Alors que certains critiques, à l'heure actuelle, sont tentés de théoriser la figure de la femme doubout, en parlant de douboutisme, j'ai trouvé cela, les écrivaines des Antilles et de la Guyane rappellent plutôt la nécessité et la difficulté qu'il y a à se défaire des mythes, pour mieux rendre compte des expériences du passé, mais aussi pour penser le présent et l'avenir. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je transmets tout de suite la parole donc à Stéphanie Vélin, qui est, si je ne me trompe pas, doctorante actuellement et qui est en train de travailler donc sur l'écriture de Michel Lacrosille, dont vous allez nous parler.
Vous avez une présentation aussi ? Merci. Oui. D'accord. OK. Alors, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors,
Parler d'un féminisme qui ne dit pas son nom dans l'écriture de Michel Lacrosil, c'est tout d'abord parler d'une écrivaine dont le nom reste assez méconnu encore aujourd'hui. Elle compte parmi les premières écrivaines noires des Antilles de langue française, succède à Suzanne Lacascade, qui est peut-être encore moins connue, Claude et Marie-Madeleine Carbet, précède Simone Schwarzbart, Maryse Condé et Gisèle Pinault, dont on vient de parler. Les principaux noms d'écrivaines auxquels on associe aujourd'hui la littérature antillaise. Née en 1911 à Basse-Terre, en Guadeloupe, Michel Lacrosil est l'autrice de 3 romans, tous parus aux éditions Gallimard dans les années 60. Donc, Sapotille et le Serin d'Argile en 1960, Cajou l'année d'après en 61 et Demain Djaberma en 67. C'est son dernier roman paru à ce jour. Mais elle n'a pas cessé d'écrire et en 1981, sa pièce de théâtre intitulée Les Marchands du Temple est lue à Paris par un acteur antillais, par ailleurs, un certain Greg Germain. Dans cette pièce, les protagonistes principaux sont Gracien et Majoula. Ce sont 2 jeunes diplômés guadeloupéens, lui en agronomie, elle en ethnologie. Ils reviennent vivre en Guadeloupe dans un hameau de Basse-Terre. Aucune date n'est précisée dans la pièce, mais certaines indications en fait, nous laissent croire le contexte de l'intrigue date de la fin des années 60. Le couple revient dans l'objectif de préserver l'écosystème, lutter contre l'utilisation des pesticides dans les exploitations agricoles. Et au passage, 1981, donc la date de la pièce de théâtre, ça correspond aussi à la date de commercialisation du chlordécone en France, qui était déjà interdit aux États-Unis depuis 1976. Gracien et Majoula veulent privilégier une alimentation locale plutôt que des produits importés. Un habitat traditionnel, adopter un mode de vie assez frugal plutôt qu'une consommation à outrance, et contre-acheter la seule école du hameau mise en vente par les habitants pour y dispenser des cours en créole. Alors une fois encore, les années 80, c'est aussi la période de revalorisation de la langue créole, notamment par le travail de la sociologue guadeloupéenne Dani Bebel-Gisler, que Michel Lacrosil a lu et peut-être connu. Elle a été la fondatrice de Bois du Bout, qui était une école située au Lamantin en Guadeloupe où on enseignait en créole. Ces problématiques donc imprègnent l'écriture de Michel Lacrosil, et alors qu'en 1981 elle réside en France hexagonale depuis une trentaine d'années à peu près, elle n'est pas retournée en Guadeloupe depuis plusieurs décennies et elle n'y retournera pas à y vivre puisqu'elle décède en 2012 à Paris. Dans la pièce de théâtre, Majoula, c'est la figure d'une intellectuelle noire. Elle est également une jeune femme qui se positionne contre l'institution du mariage, revendique l'amour libre et ce qu'elle appelle le droit d'option. C'est un peu le pendant du droit à disposer de son corps. C'est-à-dire le droit de choisir l'homme qui élèvera son enfant, si enfant il y a, si enfant elle souhaite, qu'il en soit le père biologique ou pas, qu'elle soit en couple avec lui ou pas. Et elle en donne la définition suivante dans la pièce. Elle, donc la femme, peut désigner, si bon lui semble, l'homme qu'elle jugera capable d'élever et de protéger l'enfant. Le personnage de Majoula, il s'est construit sur une certaine pensée féministe des années 60-70, mais le terme même de féminisme n'apparaît jamais, ni dans cette pièce, qui est inédite, ni dans aucun des romans parus de Michel Lacrosil. L'autrice elle-même a été catégorisée par certains critiques comme n'étant pas assez politisée, pas assez engagée. Un ancien professeur de lettres avec qui j'ai discuté garde même le souvenir de ses œuvres qu'il considérait plus jeune comme étant, je cite, « cucu la praline ». Et ces critiques, qui sont très généralement des hommes, blancs comme noirs, n'ont jamais lu Michel Lacrosil qu'à travers un certain sentimentalisme, notamment quand il s'est agi de Cajou, qui est l'héroïne du deuxième roman de Michel Lacrosil. Cajou, c'est une jeune femme originaire de là-bas, entre guillemets. Là-bas, c'est un ailleurs qui n'est jamais nommé dans le roman, mais qui ressemble fortement aux Antilles, d'après la description des paysages. Elle est née d'un père noir qu'elle n'a pas connu et d'une mère blanche qui l'a élevée seule. Cajou est à 28 ans, docteur en sciences, pressenti pour le poste de chef de laboratoire, fiancée à un jeune doctorant, Germain Dietrich, surnommé le Viking parce qu'il est blond aux yeux bleus, et elle est enceinte de lui. Donc sur le papier, Cajou, c'est une réussite. Elle incarne une certaine réussite, du moins. Pourtant, elle se trouve laide à en mourir, littéralement. Elle projette de se suicider parce que sa propre image lui est insupportable et parce que celle d'un enfant qui lui ressemblerait l'est encore plus. Le roman est une longue complainte, celle de Cajou, qui chaque soir se scrute dans le miroir, tente de persuader chacun de ses interlocuteurs et interlocutrices de sa laideur, au risque de lasser un peu le lecteur ou la lectrice. Et si le terme de victimisation était à la mode en 61 autant qu'il l'est aujourd'hui, nul doute qu'il aurait servi à caractériser l'attitude de l'héroïne. C'est à ça que se réduit la lecture de l'œuvre pour certains lecteurs, dont le journaliste et professeur de lettres Luigi Collage-Olivière, qui écrit en 62 dans Le Nouvelliste. Alors, Le Nouvelliste, c'est un des quotidiens, enfin, c'était un des quotidiens les plus lus de la Guadeloupe, si ce n'est le plus lu à cette époque, parce que Français Anti n'existait pas encore, est arrivé en 67. Oui, je vous ai mis la citation suivante. Donc, il pose la question, pourquoi Germain ne la conduit-il pas, Cajou, dans une clinique pour une cure de sommeil, par exemple? Tout simplement parce qu'elle ne semble pas en avoir besoin. Ce qui est paradoxal, Cajou a été une petite fille trop gâtée pour qui une bonne raclée de Germain aurait remplacé le meilleur des électrochocs. La virulence de ces propos est en fait assez caractéristique de la violence de l'œuvre de Michel Lacrosille elle-même. Le roman de Cajou montre l'état mental d'une femme métisse qui évolue dans un milieu et quasi exclusivement blanc, en fait, blanc et raciste, depuis son plus jeune âge. Elle a construit son identité à travers sa mère à laquelle elle ne s'identifie pas, et à l'âge adulte, son quotidien est fait de discussions, de dialogues avec son supérieur hiérarchique au travail, qui s'adresse à elle en l'infantilisant, ne l'appelle jamais par son prénom, mais plutôt « mon petit ». Des discussions avec sa collègue Lucienne, qui lui parle de son père et de ses nègres, comme elle dit, de son fiancé Germain, qui s'amuse de son physique, son nez et ses cheveux en particulier, très négroïdes, et enfin, mais pas des moindres, le viol à répétition qu'il lui fait subir et qui a en fait initié ce qui fait office de relation entre eux. Car la relation Germain-Cajou s'inscrit dans un rapport de domination impliquant le genre et la race, sans qu'aucun critique homme ou femme des années 60-70 ne le remarque. Pour celles et ceux-là, Germain est la figure du sauveur. Or, il n'a jamais proposé à Cajou de l'épouser. Elle et lui n'ont jamais discuté d'avoir un enfant, ni même de vouloir un enfant. Toutes ces décisions sont prises par lui seul, et Cajou subit, se disant qu'elle est une descendante d'esclaves. En outre, le personnage éprouve une attirance presque amoureuse pour ses amis IES, façon pour l'autrice, je pense, d'esquisser la question des relations lesbiennes dans les années 60, au début des années 60. Elle n'est jamais Cajou dans une revendication ni dans une affirmation de soi à la Majula, pas parce qu'elle serait faible, je pense, mais bien parce qu'elle est épuisée. Il faut donc à la lectrice, et peut-être plus encore au lecteur, aller au-delà de la conception d'un texte pleurnichard, accepter d'être mal à l'aise tout au long de la lecture. Ces mêmes violences qui sont quelque peu lissées, comme on peut le voir sur la diapo suivante, voilà. C'est paru en fait dans le journal L'Aurore. Ce sont des illustrations de Cajou, et c'est assez, ça paraît enfin un peu comme une bande dessinée en fait. C'est un côté un peu très sympathique. Donc ces mêmes violences, elles sont présentes dès le premier roman de Michel Lacrosille, Sapoti et le serin d'argile, dans lequel l'héroïne Sapoti, qui est une Guadeloupéenne de 26 ans, noire ou plus exactement capresse en fait pour être précise, c'est-à-dire née de parents indiens et noirs. Parce qu'aux Antilles, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle se déroule l'intrigue, selon la hiérarchie des couleurs héritées de l'esclavage, on est ou capresse, ou mulâtresse, ou chabine blanche, ou tachetée, dorée, calazaza, etc. Sapoti, c'est très précis, Sapoti est amoureuse d'un mulâtre, un métis, prénommé Patrice, qui ne l'épousera jamais parce que dans ce système, on n'épouse pas plus foncé que soi. Donc, elle épouse donc Benoît, qui est un capre lui aussi presque noir, dont elle divorcera parce qu'il la bat, Violence qui, une fois encore, passe inaperçue pour nombre de lecteurs et de critiques à cette époque. Vu d'ici, le roman, il est assez gentil, en fait. On ne saisit pas bien les problèmes qu'ont les gens de couleur, comme il est souvent écrit dans les critiques à cette époque, les problèmes qu'ils ont entre eux. Mais ça ne concerne pas les blancs ni les blanches, donc voilà. Et vu de là-bas, on sait exactement de quoi parle l'autrice, mais pour certains, l'écrit n'est pas suffisamment dénonciateur de la hiérarchie des couleurs. La couleur n'est pas assez politisée, elle n'est même pas théorisée à la manière d'un Césaire, d'un Glissant ou d'un Confiant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est aussi celle de savoir si le genre en lien avec la couleur est-ce qu'elle est présente dans ces écrits-là. Parce que dans l'œuvre de Michel Lacrosil, c'est une question qui est incontournable et elle est politisée en ce sens parce que l'intime est politique. Majoula, elle s'approprie la maternité. Cajou et Sapoti, elle, la refusent. Et c'est Marie Scondé l'analyse dans La parole des femmes qu'a cité Tine Arpin tout à l'heure. C'est la diapo suivante, s'il te plaît. Donc en ces termes, nous l'avons déjà dit, ce serait une erreur de chercher chez les romancières antillaises l'écho strident des revendications féministes. La protestation, on peut même dire la contestation qu'elle véhicule cependant, est plus nuancée. Elle s'exprime surtout par le refus de la maternité. C'est, je pense, une analyse qui est très à propos pour les œuvres de Lacrosil, pour toutes, en fait. La première héroïne de Michel Lacrosil, donc Sapoti, elle quitte son île natale à la fin du roman, pas avec un blanc, pas avec son blanc, ou en quête de lui à la Mayotte Capétia, mais sans mari ni enfant. Quand dans d'autres romans de la même époque, la maternité, ça marque l'accomplissement de la vie du personnage féminin. Pour Sapoti, à l'inverse, la vie commence le jour de son départ. À quelques pages de la fin, elle est presque arrivée en France, son pays de rêve, et elle dit donc, non, cet enfant ne vivrait pas. Non, je ne voulais pas de petite fille qui lirait dans son livre d'histoire nos aïeux, les Gaulois, portaient la braie et la scie, et qui ouvrirait ensuite les yeux sur un monde partagé, races et castes ennemies. Alors il lui faudrait apprendre que Patrice aussi se trouvait de l'autre côté de la barrière. Il lui faudrait réviser seule les notions acquises, s'interroger, s'accuser, regretter la franche et impossible ségrégation. Je ne voulais pas non plus d'un petit garçon, d'abord tendre, ensuite pharaon, puis amer, et qui deviendrait un homme hargneux parce que chaque brimade lui aurait laissé ce besoin de tourmenter qui avait marqué Benoît. Je ne voulais pas d'enfant modelé par un climat. Il était mort, mieux, il n'avait pas été, il n'avait pas souffert, il ne souffrirait pas. Quelle chance, si personne ne comprenait, tant pis. L'enfant m'aurait attaché à Benoît et au pays, je désirais les quitter. Elle vient de subir une fausse couche à ce moment-là et décide de partir pour la France. Donc bien sûr, Sapoti ne s'embarque pas pour un pays d'Afrique ni même une autre île de la Caraïbe. Elle part pour la métropole, vraiment au sens mère des colonies. Et elle part chercher une sérénité raciale. C'est une expression que j'emprunte à Michel Lacrosil. Sans réaliser qu'une fois arrivée, elle ne sera plus capresse. Elle ne sera pas perçue autrement que femme noire, qu'en tant que femme noire. Il y aura donc de toute façon une identité qui lui sera assignée, une couleur dont elle ne pourra se défaire. Certains lecteurs le savent, certaines lectrices en particulier, une femme noire, le savent d'autant plus. L'essor des mouvements féministes en France, avec en tête le mouvement de libération de la femme, le MLF, est contemporain à l'écriture et à la publication des œuvres de Lacrosil. Seulement, hormis la création en 1977 du mouvement de la coordination des femmes noires, qui compte la femme de lettres Gertie d'Ambury, ailleurs, la représentation du MLF est constituée de femmes majoritairement blanches, ce qui signifie que la représentation non pas du féminisme, mais des femmes qui revendiquent le terme en France à cette époque, est pour beaucoup celle des femmes blanches, pour lesquelles les femmes noires sont étrangères, ou dont la voix serait inaudible, les spécificités inexistantes, en lieu et place desquelles il faudrait parler. C'est aussi une littérature dont les œuvres, même fictionnelles, sont estampillées féministes, comme les romans de Benoît Groot, par exemple. Ce qui pose la question de savoir quelles autrices antillaises pourraient appartenir à cette littérature féministe, quelles œuvres d'autrices antillaises pourraient constituer un canon du genre, et de ce fait, si Michel Lacrosil pourrait s'y inscrire. La question qui se pose alors est aussi comment des femmes descendantes d'autres femmes mises en esclavage écrivent-elles le féminisme ? Effectivement, comme l'a écrit Maryse Condé, il n'y a pas d'écho strident des revendications féministes, pas dans les œuvres de cette génération en tout cas. Mais quand on a été réduite au silence pendant des siècles, ça n'est pas surprenant. L'écriture de ces pionnières antillaises, Suzanne Lacascade, Michèle Lacrosille, Jacqueline Manicom aussi, qui a été sage-femme et membre du MLF, et qui évoque pour sa part l'avortement et les stérilisations forcées dans ses œuvres La Graine et Mon examen de blanc, qui date du début des années 70, les deux. C'est une écriture qui ne cherche pas la validation. Elle n'est pas la littérature des figures du féminisme français blanc. Elle ne se revendique pas comme telle, mais en fait, elle n'a pas besoin de le faire. Leurs œuvres nous transmettent beaucoup par le simple fait, par le fait que les autrices, des femmes noires, s'écrivent elles-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai découvert Michèle Lacrosille grâce à vous, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et pour avoir respecté votre temps de parole aussi, je passe tout de suite le micro à notre collègue Carolette Norwood, qui nous vient de Cincinnati, qui est sociologue et professeur associé of Women's Gender and Sexuality Studies.
Thank you. Hello and bonjour. Je suis contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis la Louisiane. Je suis née à Baton Rouge, mais j'habite à Cincinnati maintenant. Say to with the French. Okay. So I'll just move right into the introduction. I'm not sure I'll be able to hold this and speak at the same time. Can you hear me? Can
you hear me? No.
Oh, okay. Thank you. Okay. So I do, therefore, I am Africana feminist Prashis. For many black women within and across the diaspora, feminism is a verb. It is a necessary action. Black women, diversely defined, have long recognized that our collective and individual survival depends on our ability to stand up, speak up, and push back against oppressive forces that attempt to either write us into one-dimensional characters, diminish our humanity, and or devalue our labor, our care, and our very existence. It is important to note that Black and or Africana feminisms are plural. We are not a monolithic people with uniform ideals, experiences, or thoughts. We are hugely diverse, but do share a common oppression when it comes to gender, race, and sexuality. Our national origins, religions, and ethnicities equally shape who we are, as well as our life chances, opportunities, and well-being. The mutual circumstances of colonialism, slavery, and patriarchy are the oppressive forces which birth an intellectual and pragmatic movement I call Africana feminisms. And while these feminisms cooperate and are in collaboration with each other, they are not necessarily the same. And homogeny should absolutely not be assumed. So then, what does it mean exactly to do Africana feminisms in the presence of diasporic diversities? How do we build community and solidarity across oceans and unfamiliar spaces? How can we be in conversation with each other? And how can we eschew a United Statesian omnipresence? To answer these questions, I will draw on an example of the natural hair movement that is taking place all over the diaspora. However, before I do that, I'd first like to address the ambiguity of doing feminism versus being a feminist. Doing and naming our feminisms. Africana Black women do feminism, and some of us claim feminism as an identity, while others remain skeptical of the political implications of embracing a term and a movement that has largely been misrepresented as a Eurocentric pursuit. Sylvia Tamale from Uganda, landmark article, African Feminisms, How Should We Change, call on African women to fan the flames of feminism, to be absolutely giddy, elated, and drunk on our cause. She maintains, in Africa, people would rather call themselves gender activists than the F word. However, she notes that this political choice avoids the label feminist for gender activists and lacks a political punch that is central to feminism. And while I absolutely agree with Tamale here, I believe that the tendency to gravitate towards the activist label allows ambivalent individuals who have not yet arrived into a solidified feminist identity to do important work of addressing gender inequity while embracing an identity that has been historically marginalizing to Black and brown women. And opting for the label gender activist as opposed to feminist, they position themselves as allies in the general Black liberation movement. However, this too has limitations when it comes to the collective freedoms of all Black people, particularly women and queer individuals. In a classic article entitled Becoming Contemporary African Feminist, Patricia McFadden of South Africa urges us to embrace a radical feminist conscience and politics that centers the notions of bodily integrity, dignity, well-being, and citizenship. For many Black feminists far and wide, within and across the diaspora, feminism is a verb. It is something that is done. It is a mission with an unapologetic social justice pursuit with a single end goal, liberation. However, liberation movements are not singularly focused on race, class, or anti-imperialist struggles in which gender and heteropatriarchy heteropatriarchy are not firmly centered is not a truly liberatory movement. The national conceptions of what Black liberation is, of Black liberation is sharply critiqued by Sadia Hartman of the U.S. In the article entitled "The Belly of the World: A Note on Black Women's Labor," here Hartman points out that two of the greatest works on the radical Black liberation tradition, W.B. Du Bois' Black Reconstruction and C.L. James' Black Jacobson's, in which the Black worker, albeit unwaged and unfree, obscures much as it reveals. Hartman maintains that though women's sexual and reproductive labor is critical in accounting for the violence and degradation of slavery, and yet their labor falls outside of the heroic accounts of Black workers and the general strike. As such, the sexual violence and reproduction characteristics of enslaved women experiences fail to produce a radical politics of liberation or a philosophy of freedom. And while gender activists and feminists both strive to highlight the particularities of gender liberation struggles, feminism is a decidedly political identity. And like gender activism, feminism for many Black women is not just about an intellectual philosophy, but rather the action of doing, not so much the label of being. Doing Black feminism within and across the diaspora. Much of what has been written and published about Black women have been generated from non-Black women. Our erasure and invisibility within published media leaves us muted and are misrepresented into what P.H. Collins call controlling images. Usually as either a regional monolith and or individually as a one-dimensional character that robs us of humanity, our dignity, and our personhood. Images of Black women within and across the diaspora promote Western white stereotypes that renders us as other. One charge of both the conscious and unconscious Black feminists is to challenge controlling images of Black women. According to P.H. Collins, controlling images are the symbolic themes, thematic characters Black women that are perpetuated to define her value and her being. That something's messed up there. Controlling images are devices used to control and surveil black women, but also shape policies that govern their lives. These controlling images have endured from the colonial to the slavery era to present. Under colonialism, white supremacy and all of its arrogance dictated itself fully human, civilized, and above all, beautiful. Anything outside of these parameters were by default less human, uncivil, and ugly. In response to Western manufactured stereotypes, black women often find themselves engaged in an outright challenge to push back and redefine themselves based on their standards, or the opposite, fall prey to internalizing ugly messages that deems us as uncivil or ugly. In the post-slavery era in the United States, the African American tried to reinvent themselves. They attempted to write their own story, to present themselves the way they saw themselves, which was human first, and as a dignified people, and as a beautiful people. These efforts manifest into what we now call the Harlem Renaissance, which was a literary movement that inspired other diasporic movements, such as the Negritude movement, both which prioritized black liberation struggles. The Harlem Renaissance promoted and embodied a politic of respectability. In this period, blacks were attempting to reestablish themselves, to regain a dignity they believed slavery robbed them of. And so a movement of respectability was born. Respectability politics was not only about cultural aptitude, but the presentation of self. African Americans wanted to divorce themselves from the slave image, which was poor, uneducated, inarticulate, uncivil, and unattractive. As they sought to be modern, which meant to possess a European aesthetic, light skin, straight hair, see the work of Shirley Tate's on these experiences in the Afro-British context. In the remaking of the self, the African-American entrepreneur explored business opportunities and innovations that would yield new products that were rendered lighter skin and straighter hair. The most well-known and innovative was Madam C.J. Walker, who is credited as being the first black woman millionaire. She created modern-day relaxers, which are chemical creams that process curly hair into a straighter version. Both men and women process their hair to achieve this look, believe themselves to be more respectable and modern. In 1937, a poet by the name of Una Morrison took up these issues in a poem called Kinky Hair Blues. In this poem, Morrison talks about wanting to go to a beauty shop to press her hair so that she could achieve this presentation of respectability and beauty, but at the same time, she said that she liked her black face, she liked her kinky hair, but she needed to, she had to bleach her skin and straighten her hair so that that she can fall in line with, I guess, the ambitions of the time. In the poem, Morrison illustrates for black women, liberation also means having their own natural beauty acknowledged and appreciated, and that for black women, the choice that to have love and to be respected and to be beautiful also meant that they had to alter their appearance. And so as time moves on, in recent times, the respectability politics for many black women also meant that this was a way of gaining entry into a career or even a service job or even admissions into schools. Across the diaspora, there has been countless cases of hair discrimination, some of which I detail in a paper that was recently published called Decolonizing My Hair, Unshackling My Curls, which focus on Africa, Europe, South America, West Indies, and North America, with discrimination. I'll pull away from this. I was up all last night trying to finish this paper, and there are parts that I can see that, you know, there's some lack of some disjointedness. But the point where I was moving with this, which is that, so the question was, how can we be in conversation with each other? black women who embrace a feminism. For me, I see that being articulated in this natural hair movement. I see black women, irrespective of language, and I know I'm speaking English, and I know that a lot of what I'm pulling from are coming from mostly English written documents, but there seems to be some level of communication. And that I see this movement as a way of reclaiming ourselves, are redefining ourselves irrespective of those controlling images that are imposed onto us. I see us standing up and speaking back against those powers that seemed that attempt to try to rob us of that dignity. And that this movement is not a movement that's only happening in a single region of the world. It's happening, and you can move them. It's happening all over the place. And so irrespective of what might seem to be borders and barriers, this is happening, and I see it, for me, as a definitive articulation and performance of black feminism. Because as I started, I think it's true for a lot of black women, feminism is something that we do. It is also an identity that some of us hold. It's one that I hold. But, you know, it is absolutely something we do. And, it was just different pictures across the, you know, people across the diaspora. And many of the stories are the same. And so I use Collins' empowerment, knowledge, and consciousness as a framework for understanding the ways that black women do feminism. And if you read these accounts, you see in the different stories that women are coming into a consciousness or a knowledge and a consciousness which leads to a certain level of empowerment. And so that the idea of a feminist versus a gender activist, this for me is definitely an articulation of black women, conscious or unconscious. This is, for me, a very feminist movement.
Thank you very much. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Carmen Dioc pour la dernière intervention. Et on aura, je pense, un temps de discussion, car vous avez soulevé plein de questions importantes. Donc, Carmen Dioc, vous êtes doctorante à l'Université Paris 8. Et donc, vous nous proposez une communication avec aussi un PowerPoint qui s'appelle « Activités militantes non mixtes en France, de quoi les expressions communautarisme-racialisme sont-elles le nom ?»
Merci. Je vous remercie de m'avoir invitée. J'avais proposé le même sujet au colloque, je ne sais plus son nom, et il avait été refusé. Donc là, c'est vraiment le bon endroit pour en parler. Alors, je vous demande de mettre la page 2. Et la page 2, ça ne se fait pas de s'autociter, mais je m'autocite. Les personnes qui me connaissent depuis longtemps, qui connaissent mon travail depuis longtemps, comprendront pourquoi. Je vais lire ça, mais en même temps, je vous recommande de lire ce qui est derrière moi. Il est dangereux de s'opposer frontalement et seul au système. Les femmes, je cite, ont le plus grand mal à se reconnaître une contrainte pathogène commune, car la société les renvoie sans cesse à l'individuel et au biologique. Elles ont donc, en tant que femmes, le plus grand mal à avoir des postures défensives communes qui ouvrent sur des pratiques collectives. Danielle Kerguat. Et cela, d'autant plus que cette atomisation est redoublée par leur ethnicisation. Construire un collectif impliquerait qu'elles travaillent ensemble, entre Noirs, avec la conscience sociale d'être Noirs, ce qui serait, en France, qualifié d'initiative communautariste. C'est en comprenant la manière dont les rapports sociaux sont incorporés qu'on peut transformer une situation en passant par un collectif, groupe qui s'est symbolisé lui-même, qui déconstruit par le biais du langage ce qui semble naturel et élabore de nouvelles normes. Même si l'expérience des femmes noires diplômées, ce qui est mon sujet de recherche depuis 2007, même si l'expérience des femmes noires diplômées leur apparaît comme singulière, elle est d'abord sociale. Chacune, confrontée en singleton à des situations similaires, développent les mêmes systèmes de défense individuelle, car il s'agit de se défendre du même type de souffrance. Mais elles sont incapables de socialiser leur expérience, de la transformer en connaissances généralisables et réutilisables, ce qui est de moins en moins vrai. Ce sont des choses dont on ne parle pas. Dans une certaine mesure, on a affaire à un déni collectif implicite, puisque même celles qui sont conscientes des injustices et les dénoncent contribuent néanmoins, par leur silence, à construire la communauté du déni. Elles sont toutes surprises d'apprendre que les autres aussi ont les mêmes types de comportements, les mêmes mots face aux mêmes situations, que les mêmes souffrances provoquent les mêmes effets. Comment mettre fin à l'enchaînement souffrance, défense protectrice, défense adaptative, défense exploitée? Pour parler d'expérience collective, une interprétation est nécessaire qui fait soudain apparaître que tous souffrent. Pourtant, quelque chose est partagé ici. Quoi ? L'intelligibilité, le sens, Christophe Dejour. L'objectif de la poursuite de ce travail, en l'occurrence mon M2 recherche en psychologie du travail, sera de permettre l'émergence d'une expérience collective où serait construit ensemble un sens commun à ces expériences. Un tel collectif permettrait que les femmes noires diplômées, puisque c'est mon sujet de recherche, impliquées, partagent une pratique discursive sur des expériences dont on ne parle pas, trouvent des mots pour dire ensemble leur réel du travail, et puis peut-être un jour avec les dominants. Évidemment, là, on va parler de la réaction négative des dominants. En 2009, lorsque j'avançais cette hypothèse dans la conclusion de mon mémoire de M2 recherche en psychodynamique du travail, j'étais loin d'imaginer, je suis très émotionnée là, ça fait, depuis 2015 je n'ai pas fait de communication, donc peut-être qu'il y aura des surprises émotionnelles, pardon. En 2009 donc, j'étais loin d'imaginer que je me retrouverais devant vous, 11 ans plus tard, à essayer de déconstruire les notions de communautarisme et de racialisme opposées à l'universalisme républicain dans le cadre d'un colloque international sur les féminismes noirs en France et à les analyser comme faisant partie du champ lexical du racisme structurel français. J'étais loin d'imaginer qu'en France, de nombreux collectifs de femmes et d'hommes noirs et racisés allaient bientôt mettre en commun leurs expériences du racisme et du sexisme en revendiquant la non-mixité raciale comme un outil d'émancipation. J'étais loin d'imaginer... Excusez-moi. Que des pratiques discursives collectives sur ces expériences dont on ne parle pas allaient trouver les mots pour dire le vécu des femmes noires et construire ensemble un sens commun loin du regard blanc, le fameux « white-white gaze » du dominant analysé par Toni Morrison. L'idéologie raciste établit une hiérarchie et une domination entre les individus qui s'appuient sur la construction sociale de la race, représentation morphologique, ethnico-raciale, culturelle et politique, marqueurs plus ou moins visibles, patronymes, signes d'appartenance à la religion musulmane, on va parler de la religion musulmane puisque c'est le gros souci français actuellement, origine, différence réelle ou supposée. Les définitions de Mémy dans le racisme, de Guillaumin dans l'idéologie raciste, de Juteau dans l'ethnicité à ses frontières, en passant par Balibert et Wallenstein dans race, nation, classe, les identités ambiguës. Les définitions de Taguieff dans Essai sur le racisme et ses doubles, de Tévanian dans la mécanique raciste, de Viviorca dans le racisme, une introduction, sans oublier les propositions récentes d'Edo Lodge, qui, elle, n'est pas française, dans le racisme est un problème de blanc, et d'Adjari dans la dignité ou la mort, éthique et politique de la race, tentent chacune de qualifier le racisme, ses processus et ses manifestations. Des rencontres militantes emblématiques ont occupé l'actualité récente des mouvements antiracistes hexagonaux. Pour le camp d'été des coloniales, en 2016, Moissy, sa projection du film Black Panther en 2018 et son festival Nyan Sapo en 2017, le collectif universitaire Parole Non Blanche depuis 2016 et son festival anticolonial féministe en 2017, le collectif non mixte racisé d'étudiants racisés en 2017, les enseignants de Sud Éducation 93 et leurs stages syndicaux non mixtes en 2017, les Lesbians of Colors, LOX, et leur rassemblement d'action lesbienne, RAL 2011, le groupe du 6 novembre de Rennes, les collectifs CAS Rebelles et Swatché, le Parti des indigènes de la République, et j'en oublie. Pour tous ces mouvements, la non-mixité apparaît comme une nécessité politique pour favoriser l'autodéfinition, l'autodétermination et l'auto-émancipation, et pour analyser le racisme et la production des races sociales comme un processus social global et complexe qui désavantage certains individus dans la dynamique du pouvoir et en avantage d'autres à travers des privilèges directs ou indirects grâce au partage d'expériences et de savoirs méthodologiques. Selon Siam Asbaghe et Fania Noël, qui ont créé le camp d'État décolonial, les réunions mixtes survalorisent, surinterprètent, surlégitiment les discours dominants intériorisés et imposent d'expliciter les mécanismes de domination. Les activités non mixtes permettent de libérer la parole et de restaurer l'estime de soi dans le cadre d'une non-mixité temporaire et restreinte où le white gaze qui déforme et détourne l'expérience des sujets racisés ne met pas en doute les ressentis en les taxant de complaisance victimaire ou paranoïaque. Je cite les créatrices du camp d'été décolonial, « Nous n'avons pas voulu faire de la pédagogie à l'intention des Blancs, mais nous concentrer sur les racisés, comme nous, qui subissent les mêmes oppressions que nous et qui ont besoin d'échanger sur ces questions-là. » Or, alors que la non-mixité de genre et ou de sexualité fait partie des pratiques militantes courantes, au même titre que le partage d'expériences et la construction de stratégies de lutte, dont elles constituent souvent la condition d'émergence, les groupes de réflexion non mixtes organisés autour des oppressions croisées de classe, de genre, de sexualité, de race et de l'esclavage, de la colonialité et du partage d'expériences de la marginalisation, de la minorisation et de la précarité sont réprimés au nom des valeurs républicaines. Je me rattrape. Non seulement la non-mixité raciale des espaces militants cristallise une fracture entre féministes racisées et féministes mainstream, entendre féministes blanches, mais elle provoque une levée de bouclier de la part de la société civile et politique française qui la disqualifie systématiquement en la qualifiant de discriminatoire, communautariste, racialiste, opposée à l'universalisme, préjudiciable au monde livrensable, au vivre ensemble, pardon, et en l'accusant de racisme inversé ou anti-blanc. Pour l'essayiste Martine Storti, approuver cette non-mixité de genre et de race, c'est se faire accuser de cautionner le communautarisme, le racisme anti-blanc, la sécession d'avec la République française et peut-être même l'islamisme et le terrorisme. Mais désapprouver cette non-mixité, c'est récolter d'autres accusations racistes, complices du néocolonialisme et de l'impérialisme blanc, suppôts de l'extrême droite pardon, et de la fascosphère ou encore féministes blanches. Un combat de femmes noires, un combat mené à la fois contre le patriarcat et contre le racisme, oui, mille fois oui. Néanmoins, Storti affirme que Moissy élude le patriarcat dont les femmes noires sont victimes pour désigner comme ennemi le blancariat néocolonial et les féministes blanches. Elle conteste, au nom d'une universalité formelle et sans considération pour l'expérience vécue des femmes noires, un binarisme qui sépare le français. L'écrivaine et syndicaliste Dominique Manotti, pour sa part, insiste sur la nécessité politique de la non-mixité pour libérer la parole à travers des témoignages personnels qui s'affranchissent du discours officiel et affirme qu'elle n'a rien à voir avec la ségrégation. Pour Oraya Diallo, il existe une différence entre la ségrégation subie et nourrie par le pouvoir et la non-mixité temporaire choisie par des personnes vulnérables. La blogueuse afroféministe Kiyemis rappelle qu'à la manière des groupes noirs fermés aux blancs du mouvement états-unien des droits civils, les espaces militants non mixtes permettent d'exprimer sa colère, de craquer et de s'effondrer sans avoir à s'expliquer. Il ne viendrait à l'idée de personne d'imposer la présence du MEDEF ou d'actionnaires du CAC 40 dans des réunions syndicales de salariés. insistent les deux créatrices du camp décolonial. Quand les personnes en situation de handicap se rassemblent hors de la présence des personnes valides, parents, professionnels de santé ou du handicap et bénévoles, comme le réseau des diplômés ou étudiants de l'enseignement supérieur et cadres Asperger et autisme, il ne vient à l'idée de personne de le leur reprocher. La différence de traitement envers d'autres espaces militants non mixtes, réunions féministes et non mixité de Nuit Debout, groupe de parole sur les violences masculines à la Maison des femmes du 11e arrondissement, festival du film féministe lesbien, est patente. Au point qu'un collectif d'universitaires, de militants et d'artistes pour le droit à la non-mixité rappelle, je cite, qu'il est essentiel que les personnes qui subissent une oppression puissent se retrouver, s'organiser comme elles le souhaitent, débattre comme elles l'entendent de leurs revendications et de leurs stratégies. Nous savons ce que le mouvement féministe doit à sa capacité d'avoir construit des espaces non mixtes. Ils permettent l'existence momentanée d'une parole délivrée du poids vécu de l'oppression et la création de liens de solidarité essentiels à la poursuite de la lutte. Pour Frédéric Matonti, derrière l'universel, il y a des processus qui favorisent les hommes plutôt que les femmes, les blancs plutôt que les racisés. Pour Éric Fassin, les non-blancs ont commencé à se faire entendre parce qu'une nouvelle génération diplômée est apparue. Faire l'expérience du racisme quand on est en bas de l'échelle sociale, ce n'est pas pour surprenant, mais quand on a réussi socialement, on ne s'y attend pas. Pardon. Ces réunions non mixtes rompent avec la pensée dominante, dit João Gabriel. Et pour le blogueur, Juan Chingo de Mediapart, lorsque le combat antiraciste est pris en charge par celles et ceux qui le subissent au quotidien, dénoncer le racisme systémiste déclenche des réactions révélatrices de l'existence même de ce racisme structurel. En vérité, les critiques de l'auto-organisation des personnes qui subissent au premier chef le racisme, de leur conscientisation à la lutte de manière indépendante, c'est justement le fait que les jeunes générations de combattants antiracistes dénoncent la mascarade de la politique antiraciste. Les nouvelles formes d'antiracisme sont en revanche éminemment radicales dans leur opposition à la politique de l'État vis-à-vis des quartiers, à l'impérialisme français et aux formes de néocolonialisme extérieur et interne. Elles expriment aussi le refus de succomber à la récupération, renouant avec une tradition de lutte anticoloniale et antiraciste. Maboula Soumaoro estime que Moissy a brisé le silence sur les normes raciales et hégémoniques et les privilèges masqués qui pèsent sur les femmes racisées qui souhaitent débattre dans des espaces bienveillants. Elle s'interroge sur les motivations de cette levée de boucliers contre une non-mixité raciale légitime et rappelle que cette polémique révèle le paradoxe français entre racisme, prétendue cécité à la race et effacement de l'histoire des luttes antiracistes en France. Elle dit « La race est une fiction qui, une fois inscrite dans les corps, détermine les rapports sociaux, politiques et économiques. Nier cela constitue une violence et cette violence n'a que trop duré. » Force est de constater qu'en France, les sujets ethnicisés et racialisés qui se mobilisent collectivement pour réfléchir ensemble aux oppressions croisées qu'ils subissent et y répondre sont stigmatisés comme s'inscrivant hors des principes républicains et mobilisant dans un retournement paradoxal des arguments prétendument racialistes, en d'autres termes, affublés à leur tour de la valeur péjorative du terme raciste et donc discrédités. Qu'elle révèle un racisme d'État, institutionnel ou systémique, voire de classe, ces controverses sont les symptômes de 1. L'hégémonie culturelle, référence à Gramsci et à Fanon, de la blanchitité, qui est le mode de problématisation des rapports sociaux de race inscrits dans cette hégémonie qui est à la fois sociale, culturelle, politique, blanche, imposée aux minorités estoratiales. Et là, c'est une définition de Steve Garner, et du lieu d'énonciation ethnique, raciale, sexuelle et de genre hégémonique, prétendument universel, neutre et objectif. Là, c'est une reprise de Grossfogel. Et elles appellent à l'usage d'outils conceptuels et méthodologiques issus de la pensée décoloniale, je pense à Ducel et à Mignolo. pour déconstruire la manière dont les dominants désamorcent, voire neutralisent les tentatives et initiatives minoritaires d'émancipation. Il est nécessaire aussi de rappeler, avec Fania Noël, qui va parler ici, je crois, dans deux jours, que si l'activisme afroféministe échappe temporairement à la violence systémique et institutionnelle dans les espaces de parole, de soutien et de solidarité non mixtes, elle reste en butte à des violences racistes, hétéropatriarcales et classistes hors des espaces militants, c'est-à-dire Internet, travail, éducation, médias, au sein du gouvernement et dans la rue. Fania Noël avance que le safe de la non-mixité est un instrument d'autodéfense collective plus qu'un outil de savoir et de pratique visant un changement politique effectif. Je n'ai pas ici le temps de développer deux notions heuristiques qui contribuent, à mon sens, à déconstruire le refus français de la militance en non-mixité raciale. La première est le droit inégal à la défense de soi, dans l'expérience des personnes minorisées en France, réprimées en tant que corps vulnérables et violentables, privées de leurs droits de conservation face aux blancs qui font jouer la légitime défense, telle que l'argumente Elsa Dorlin dans Se défendre, une philosophie de la violence, et telle que l'illustre la romancière Léonora Miano à travers des histoires individuelles de Noirs africains et caribéens chosifiés, aliénés et en résistance dans Marianne et le garçon noir. J'en arrive à la fin. Pour Dorlin, la reconnaissance des aptitudes défensives des subalternes et l'acquisition d'un droit effectif à la légitime défense sont des conditions nécessaires à l'acquisition d'une citoyenneté active. Et le rapport à la préservation du sujet constitue un critère discriminant entre ceux qui sont pleinement des sujets et les autres. La philosophe conclut en montrant comment la capacité d'autodéfense des minorisés, les pratiques militantes subversives et les stratégies individuelles et collectives pour s'affirmer en tant que sujet sont systématiquement retournées en désavantage de leur auteur quand elles ne sont pas détournées au bénéfice de l'auteur, de l'État, pardon. Je pense ici à certains mouvements antiracisme dont on sait ce qu'ils sont devenus avec le temps. La seconde notion que je voudrais évoquer très rapidement ici est celle de la charge raciale proposée par Maboula Soumaoro, c'est-à-dire, dit-elle, le fait de rassurer le groupe dominant en renonçant à faire état de sa subalternité. Revendiquer la non-mixité raciale des rencontres militantes est une affaire, est assurément une manière de témoigner de sa subalternité hors de vue du regard blanc. Or, disait James Baldwin dans The Devil Finds Work, la victime qui est capable d'exprimer sa situation de victime a cessé d'être une victime, elle est devenue une menace. Il me semble important d'évoquer rapidement la catégorisation raciale épistémique qui classe ceux qui prennent position sur la question raciale en France du côté de la gauche identitaire, des intellectuels critiques, des intellectuels engagés, spécifiques ou encore des universitaires minoritaires et les disqualifient dans le champ académique. C'est sans doute pour cette raison que cette communication proposée au colloque international qualifié le racisme n'a pas été retenue. Le camp décolonial décline une autre catégorisation que je veux partager avec vous dans le champ militant. Pour caricaturer, vous avez trois grands types de positions. Les protecteurs du pouvoir qui ne supportent pas qu'ils soient remis en cause et qui voient d'un très mauvais œil que les racisés s'organisent. Les adeptes de théories racistes pour qui l'organisation d'espaces non mixtes est une nouvelle étape dans le processus du fameux grand remplacement. Et enfin, les superwomen, le « wo » étant entre parenthèses, de l'antiracisme, qui sont vexés de ne pas pouvoir participer à la réunion alors même qu'ils ont dédié leur vie à ce combat. En trame de fond se posent aussi deux réalités majeures. Les blancs ne savent pas qu'ils sont blancs et ils ne sont pas habitués à être remis à leur place. Pour conclure mon propos, je citerai Norman Adjari dans son ouvrage « La dignité ou la mort ». La dignité est ce que le blanc essaie d'abolir lorsqu'il exerce sa violence sur le noir. Enfin, la dignité, c'est ce que le noir affirme collectivement lorsqu'il s'engage contre la domination blanche.
Merci beaucoup. Je pense, je regarde les organisatrices, qu'il nous reste une bonne quinzaine de minutes pour engager la discussion. Donc, voilà, merci. On va prendre une petite série de questions. Levez la main pour qu'on vous identifie et qu'on vous transmette le micro.
I've got a question for Carolette. I wanted to ask you, talking about black feminism, if there's any commonalities between them, if there's any, how can this be used in terms of building solidarities or coalitions?
So, yeah, I wrote a paper a few years ago called Perspectives in Africana Feminisms. And in that paper, I talk about what I, what is, Africana as a concept that refers to the entire diaspora, Africana, that is. And that the similarities are in the experiences through colonialism and slavery, creates a kind of collective experience that black skinned people embody, irrespective of where we are, but to be cognizant of those diversities that are also present. And so, you know, it's hard to articulate a singular feminisms that will apply to all of us, given our respective differences, but in my mind, Africana kind of captures those diversities while respecting what this Egyptian feminist, I don't want to mess up her name, so I'm not going to try, she calls it glocal, you know, the combination of global and local. And it's exactly how, again, I was seeing the kind of the natural hair movement. It's not a singular movement. It's something that represents global experiences of black women and black people, because it's not just women. There are also men that are in that fight, particularly men that wear their hairs and dreads. But that, that this is an experience that is born out of having to live with white racism, a white domination in some form, whether it is through a colonial imposition, whether it's through slavery or post-slavery and current day racism.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis Martin Ibok de l'Université de Douala au Cameroun. Donc, ma question s'adresse particulièrement aux deux premières intervenantes, à savoir Tina Appin et Stéphanie Vella. Le féminisme par l'écriture, comment est-ce que le féminisme par l'écriture a réussi à bouleverser les manières de faire et les arts de faire des sociétés à la fois guyanaises, antillo-guyanaises et guadeloupéennes? Merci.
Alors, réponse à votre question, En fait, j'avais envie de vous répondre spontanément que je ne sais pas si ça a vraiment bouleversé l'état d'esprit en fait aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, parce que il y a eu cette période après la publication des œuvres de Michel Lacrosil de silence, j'ai envie de dire jusqu'à maintenant en fait. Ça a contribué à faire en sorte qu'il n'y ait pas de... à limiter l'impact, en fait, sur les mentalités. Après, les nouvelles générations d'autrices antillo-guyanaises, dont parlait Tina Appin justement tout à l'heure, je pense, démontrent aussi qu'elles ne s'inscrivent pas dans la lignée de Michel Lacrosil, mais elles se permettent des choses qu'elles n'auraient pas pu ou pas osé ou pas voulu peut-être même écrire. Et ça me... Je crois que du coup, c'est là qu'est le... C'est par la transmission, en fait, avec ces autrices-là que se fait le travail.
Oui, pour répondre et compléter ce qu'a dit Stéphanie Vélin, je pense qu'il y a un vrai problème de réception. Michel Lacrosil, par exemple, ses œuvres n'ont pas été rééditées. Elles sont très difficiles à trouver.
y compris dans les départements d'outre-mer. Donc, c'est aussi cette question qui se pose. Qui lit ces auteurs ? Les enseigne-t-on ? Les étudie-t-on ? Les a-t-on dans des volumes récemment publiés ? Les numérise-t-on ? On parle beaucoup de numérisation actuellement. Sont-elles numérisées ? J'ai vu que Dani Bebel-Gisler est actuellement numérisée sur Gallica. Donc c'est aussi tout va dépendre de l'accès à ces livres. Mais donc je vais dans le sens de Stéphanie Velin, au sens où il n'y a pas eu de bouleversement opéré, mais je pense que ce sont des œuvres qui ouvrent des espaces de parole et d'échange et qui permettent une prise de conscience à l'échelle des différents lecteurs. Et je pense que c'est aussi cela la puissance de l'écriture, c'est d'ouvrir un espace de parole. Et je voulais juste faire allusion à un atelier d'écriture que j'anime à l'Université de Guyane, qui en ce sens est très intéressant, parce que j'ai des étudiants de différentes origines, origine amérindienne, origine noire-marron, ce qu'on appelle les Bushinengue. J'ai des étudiants d'origine créole, brésilienne, etc. Et c'est souvent, on s'aperçoit que les étudiantes utilisent ce cours pour partager des histoires qu'elles ne raconteraient pas. Et c'est particulièrement émouvant. On met en scène leurs textes. Et c'est des moments comme ça. Ce sont des micro-événements, mais qui, sur un long terme, peuvent créer des initiatives, peuvent créer des changements.
Moi, je me permets une question à Tina Harpin sur la réception des autrices dont elle a parlé. C'est-à-dire, sont-elles perçues ou non comme féministes, indépendamment de la manière dont elle utilise le mot.
Pour répondre à la question de Pascal Barthélémy également sur la réception, eh bien, si vous voulez, la question du lectorat en Guyane, c'est une question compliquée parce qu'effectivement, le lectorat est limité. Et le lectorat est surtout créole d'origine antillaise. Et les écrivaines guyanaises sont surtout créoles d'origine antillaise. Donc, il y a cette conscience en Guyane que cette littérature guyanaise manque des voix des autres communautés de la Guyane. Mais quand ces écrivaines guyanaises sont invitées, par exemple au Salon du Livre, il y a 4 ans, il y a eu une table ronde d'écrivaines guyanaises et elles acceptaient le qualificatif de féministes et elles étaient invitées en tant qu'écrivaines femmes. Alors, elles sont quand même associées à la pensée féministe. Et pour avoir échangé personnellement avec Marie-Georges Thébia, elle disait qu'elle avait été très vertement critiquée pour son roman « La vie bidime » d'Ambrosia Nelson. Elle ne s'y attendait pas beaucoup du tout, mais c'est vrai qu'elle abordait des sujets tels que le viol conjugal, tels que l'avortement clandestin. Et elle vient elle-même de la bourgeoisie créole. Et les gens lui ont dit « Mais... pourquoi vous écrivez là-dessus ? Pourquoi vous écrivez ? Presque ce sont des saletés que vous écrivez. » Voilà. Donc, la respectabilité était mise en cause. Voilà.
Bonjour et merci beaucoup pour vos communications. J'ai une question, ce qui est juste une demande de précision pour Tina Harpin. Je crois, si j'ai bien entendu, que vous avez dit à un moment donné que le contexte matrifocal mettait en avant... souligner la difficulté des hommes à être présents dans les familles et qu'en même temps, ça se croisait avec des formes de domination masculine. J'ai cru entendre que vous disiez que d'ailleurs, ces formes de domination ou de violence pouvaient être une réaction à la matrifocalité. Est-ce que vous pourriez préciser ?
Alors, je vous avoue que c'est vrai que c'est l'interprétation que j'ai proposée comme une piste à explorer. C'est-à-dire que là, je me base plutôt sur quelque chose d'assez intuitif et je me demande dans quelle mesure ces hommes qui sont des tyrans ne cherchent pas aussi à inverser des tendances matrifocales expérimentées ailleurs en rétablissant un règne du père tout-puissant à leur échelle. C'était ce que je proposais. Mais ce serait à étayer, à approfondir. Et en tout cas, c'est ce que donnent à penser certains textes.
ce moment aux Antilles. C'est-à-dire l'idée que en fait, les hommes seraient victimes. Pardon, je reprends. Je dis qu'il faut être très prudente. Je ne dis pas que c'est complètement faux, mais il faut être très prudent dans la façon de l'analyser. Parce que en ce moment aux Antilles, ça nourrit aussi l'antiféminisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les femmes qui seraient victimes d'une domination, d'un patriarcat ou d'un viriarcat. En fait, je pense qu'il faut plutôt utiliser la notion de viriarcat. Mais les hommes qui seraient victimes de formes dites matriarcales. Et que du coup, il faut entendre les hommes comme étant victimes des femmes dans ce contexte-là. Donc, je dis faut être très attentive aussi au dérapage que ça peut entraîner. Et parce que vraiment, l'antiféminisme en ce moment aux Antilles se fonde là-dessus.
On va prendre une dernière question. S'il y en a une.
Alors, puisqu'il n'y a pas de dernière question, j'ai une petite annonce, mais d'abord, remercions peut-être les... Ah, il y en a une.
C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. Et je toujours cette histoire de matrifocalité et patriarcat. Moi, je travaille sur Cuba, donc c'est un peu des Antilles, mais ils ne sont pas francophones, bien sûr. Et ce que je vois, c'est pas du tout les mêmes contextes où on peut utiliser cette association pour victimiser les hommes. Enfin, en tout cas, ça, je ne pense pas que ça se fasse, mais ce que je vois, c'est que la matrifocalité sert de base à la reproduction du patriarcat et inversement au regard du travail concret. Et moi, je travaille sur le vieillissement et en fait, on voit très bien que l'alliance entre les deux fait que le travail de prise en charge des personnes âgées en particulier... reste extrêmement féminin. Bon, Cuba, c'est particulier parce qu'il y a eu un régime socialiste, donc a priori, les choses auraient dû avancer et ont avancé dans beaucoup d'autres plans. Mais là, en fait, la batterie focalité, elle